Salut, c'est Alexis, nous sommes le 3 avril 2025 et je vous parle depuis la petite ville de Hiratsuka au Japon, une cinquantaine de kilomètres de Tokyo, dans la banlieue de Yokohama, où je me suis arrêté quelques jours. Et j'essaye de reprendre un rythme un petit peu normal de podcast et donc de pas attendre qu'il y ait plein de news pour faire des gros épisodes, mais reprendre mes petites habitudes de notes vocales, voilà, puisque c'était un peu ça le projet à l'origine. Faire des petits épisodes de 5-10 minutes, mais relativement régulièrement, quasi quotidiennement au début. Mais il faut dire que ça s'est un petit peu calmé niveau grosses annonces de l'IA, même s'il y en a eu, et on va revenir dessus. Alors, la première chose que j'aimerais vous partager, c'est une petite fonctionnalité qui s'est ajoutée à NotebookLM. NotebookLM, qui est un outil proposé par Google, un outil gratuit, hyper intéressant, qui vous permet de travailler sur des quantités de documents avec de l'IA. C'est une interface qui est assez chouette, qui vous permet donc vous uploader les documents, vous pouvez ensuite discuter avec ces documents, entre guillemets, c'est-à-dire vous pouvez poser des questions par rapport aux documents, donc ça c'était la fonctionnalité la plus basique, mais que vous pouvez faire avec la plupart des LLM. Mais il y a une notion un petit peu de persistance, vous pouvez ajouter vos propres notes, vous pouvez mettre des vidéos, des documents, enfin voilà, plein de choses, donc c'est un peu multimédia. Et puis ils avaient fait une fonctionnalité absolument incroyable qui était la notion de podcast, donc vous créez un épisode audio en anglais, ou alors en français avec des petites astuces, mais bon, qui marchent quand même moins bien. Un épisode de podcast avec deux interlocuteurs, donc franchement la qualité est juste folle. Si vous avez des gros documents sur lesquels vous devez vous renseigner, et ben franchement c'est une super manière de faire. Et ils ont rajouté une troisième manière d'utiliser les sources de données que vous leur avez données, qui sont des mind maps. Des mind maps en français, des cartes mentales, mais je ne sais pas si quelqu'un utilise ce terme. Mais les mind maps, c'est, vous savez, donc vous avez des petites bulles qui se relient les unes aux autres. C'est comme un espèce d'arbre, comme ça, avec des notions qui se relient les unes aux autres, et vous creusez comme ça. Et franchement, c'est vraiment très intéressant, suivant le contexte, évidemment, dans lequel vous l'utilisez. Mais c'est vrai que quand on est dans un contexte un petit peu de brainstorming, de recherche, plutôt de recherche d'ailleurs que de brainstorming, mais de recherche sur un sujet, que l'on veut creuser un sujet, on met plein de documents sur un sujet, et bah pour explorer les données, c'est vraiment hyper bien fait. Donc en fait, comment ça se présente? Donc déjà, vous mettez toutes vos données, et puis vous lui demandez de générer la mind map, et ensuite vous pouvez naviguer dans cette mind map, et quand, soit vous pouvez aller, en fait, donc il y a toujours plusieurs niveaux, donc soit vous pouvez cliquer sur une bulle, et vous allez repasser en mode texte, il va vous donner toutes les informations qu'il a par rapport à la notion sur laquelle vous avez cliqué, ou alors vous pouvez, à côté de la bulle, cliquer sur la petite flèche, et déployer les sous-notions qui correspondent à cette notion. C'est un peu difficile à expliquer parce que c'est un truc hyper visuel, mais je vous invite à essayer. Si vous avez vraiment un sujet où vous avez plein de recherches à faire, vous avez plein de PDF et tout, vous n'avez pas envie de tout lire, et bah vraiment, ça marche très très bien. J'avais fait une petite vidéo sur ma chaîne YouTube où je montrais comment utiliser ça. Alors pas la mind map parce qu'il n'y avait pas encore, mais le reste pour préparer un voyage par exemple. Et franchement, ça marche hyper bien. Voilà, je vous mettrai le lien vers cette vidéo si vous voulez aller voir. Donc voilà, ça c'était la petite news de NotebookLM, sortie il y a quelques jours, mais voilà, j'avais envie d'en parler, j'ai oublié en fait, à vrai dire, dans le dernier épisode, mais il y avait déjà beaucoup à dire dans le dernier épisode. Alors, une petite nouvelle aussi sur le front du MCP, évidemment le MCP est un des gros buzz du moment, le protocole qui permet de connecter des LLM à des outils, à travers donc des serveurs qui font l'intermédiaire entre le cerveau et les bras, en quelque sorte. J'aime bien cette analogie. Eh bien, donc il y a un outil d'automatisation dont je ne parle pas très souvent ici, mais pourtant que j'aime beaucoup, qui s'appelle ActivePieces, qui est quelque part un petit peu entre Zapier et Make. C'est un outil qui est assez accessible, mais tout en étant un peu plus puissant par certains aspects que Zapier. Et c'est surtout un outil qui a la particularité d'être open source. Et donc, ActivePieces a intégré aussi, de la même manière que Zapier, la possibilité de connecter tous leurs outils à vos LLM à travers l'exposition donc de ces outils sur un serveur MCP. J'ai pas testé, je vais le faire probablement même dans une vidéo YouTube. J'ai essayé de tester dans ma dernière matinale la fonctionnalité dans Zapier, j'ai pas réussi à le faire fonctionner. Bon, j'ai testé très rapidement, hein, c'était sur la fin de la matinale et tout, mais ça a pas bien marché. On verra si ActivePieces marche mieux. Mais voilà, c'est assez intéressant. Qu'est-ce que ça vous permet de faire? Et ben, ça vous permet, si vous utilisez par exemple Cloud Desktop, qui permet de connecter Cloud à des serveurs MCP, et ben ça vous permet de dire à Cloud, vas-y, là tu dois me rajouter cette tâche dans mon Notion, et vous allez utiliser ActivePieces pour faire la connexion à Notion de manière très simple, puisque ActivePieces va avoir, vous allez connecter ActivePieces comme un outil d'automatisation normal. Donc voilà, donc ça doit bien fonctionner. Je vais tester et puis je ferai une vidéo. Et la dernière news, c'est un tweet de notre ami Sam Altman. Et notre ami Sam Altman, en fait, il a dit, donc suite notamment à la publication de la nouvelle fonctionnalité GPT-4 Images, là que vous avez vu, évidemment, je ne vais pas revenir sur le sujet, il a fait un tweet où il a dit on est en train d'avoir les choses en contrôle, mais vous devez attendre des délais dans les nouvelles releases de fonctionnalités d'OpenAI, vous devez vous attendre à ce qu'il y ait des choses qui cassent, etc. Parce que bah, ils ont vraiment des problèmes de capacité. Ils ont énormément de gens qui sont arrivés sur ChatGPT ces derniers temps grâce notamment à cette fonction d'IA. Donc voilà. Donc pourquoi je parle de ça? Donc bon, c'est intéressant en soi, mais bon, ça c'est un petit peu les commentaires du game de l'IA. Mais moi, je soupçonne que ça y est, OpenAI a sorti tout ce qu'ils avaient dans les tuyaux. Voilà, ça c'est mon hypothèse, on verra. Mais moi, je pense que bon, probablement qu'ils ont effectivement des problèmes de capacité, mais je pense aussi que là, ces derniers temps, ils ont eu tellement de concurrence de DeepSeek, de Gemini, notamment les images, par exemple, Gemini, il y a quelques semaines, a sorti quelque chose de très puissant. Et donc, moi, j'ai le sentiment que voilà, OpenAI était un peu acculé, a dû sortir toutes les fonctionnalités, tout ce qu'ils travaillaient, sur lesquels ils travaillaient depuis des mois. Là, ils ont tout sorti, il ne reste plus rien dans les chaussettes. Et donc, voilà, je pense qu'ils vont un petit peu jouer là-dessus. Ce n'est qu'une hypothèse, ce n'est qu'une petite analyse de comptoir du game, mais voilà, vous me direz ce que vous en avez pensé. Voilà, c'est tout pour moi, je vous laisse et je vous dis à très bientôt.